Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Girafe, je suis le R de Girafe et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de quelques minutes dans la vie d'un entrepreneur. J'ai donc le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Kimball, fondateur des sociétés Morphosis Materials et WeCycling. Je vous propose dès à présent de découvrir son parcours et ses activités. Donc Serge, bonjour, merci de nous rejoindre sur Radio Girafe. On a la chance de passer quelques minutes dans la vie d'un entrepreneur, donc quelques minutes avec toi.
Merci à toi.
Merci d'être venu. On va commencer, donc l'interview va se dérouler sur trois phases. On va parler un peu de toi, on va parler de ton secteur d'activité. Et puis on regardera aussi quelle relation tu as avec Le Havre, on fera ça en fin d'interview.
Ok.
Donc est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui est Serge Kimball et comment Serge Kimball est arrivé au Havre et comment Serge Kimball a entrepris et pourquoi Serge Kimball a entrepris?
D'accord, je m'appelle Serge, j'ai 47 ans, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je suis au Havre. Je suis fondateur du groupe WeCycling, donc je travaille dans le secteur de l'environnement. J'ai démarré en 2008.
Et ça s'appelait pas WeCycling?
Non. Ouais. En 2008, oui, j'avais créé une première boîte qui s'appelait Morphosis, qui s'appelle toujours Morphosis d'ailleurs, qui existe toujours. J'ai toujours travaillé dans les domaines de l'environnement, en fait. Moi, j'ai travaillé d'abord en tant que salarié dans un groupe, où j'ai évolué dans pas mal de postes, qui était ingénieur projet, directeur de la stratégie. Enfin, j'ai travaillé vraiment dans plein de domaines différents. Beaucoup à l'international, ça m'a beaucoup plu, c'était une super école.
C'était quel groupe ?
Le groupe Suez.
Ouais.
Le groupe Suez. Mais au bout d'un certain temps, je me suis un peu lassé des changements stratégiques de ces grands groupes permanents qui faisaient que moi, j'avais pas de lisibilité sur la feuille de route que moi, je m'étais mise en tant que responsable de la stratégie d'une division de ce groupe.
Et t'avais quelle formation ?
Moi, je suis ingénieur de formation. J'étais ingénieur à l'école de travaux publics de Paris, et puis j'ai fait Polytechnique Lausanne. Et quelque part, ma première expérience professionnelle, c'était finalement pas tant Suez, c'était prof de maths.
T'as été prof de maths avant de commencer à travailler, ça a été ton premier job.
Mon premier job, c'était pendant ma prépa.
On dit souvent que les maths mènent à tout, là, visiblement... Ça t'a amené à ça.
Oui, c'est un élément qui me suit depuis le début. Ouais. Les maths et la chimie. Ouais. Donc la chimie, c'était plutôt avec ma petite boîte de chimie, Cosmos Labor Chimie 2000, avec laquelle j'ai fait cramer les rideaux de mes parents. j'ai fait pas mal de dérivés de la boîte de chimie, mais on s'est bien amusé avec ça. Et ma première expérience, c'était ça. C'était donner des cours de maths. Et ça marchait tellement bien que le responsable de mon ancien collège m'avait demandé de créer des classes. Donc j'ai fait finalement de ce hobby quelque part, c'est ce qui me permettait aussi de payer mes études, une petite entreprise.
Ah oui, ça c'était après ton bac.
C'était après mon bac, pendant mes années de prépa et surtout pendant les années d'école où... J'ai envie de dire, je n'étais pas très très assidu en cours, donc ça me laissait pas mal de temps.
Donc t'avais déjà une fibre entrepreneuriale à ce moment-là ?
Oui, une certaine, ouais.
Donc t'as donné tes cours de maths, ensuite tu t'es dit, c'était en parallèle de tes études. Sorti de tes études, t'es pas tout de suite tombé dans le grand bain ?
Non, j'ai hésité à un moment donné, je me suis dit, mais les cours de maths c'est tellement sympa, ça te laisse tellement de temps, et je gagnais plutôt bien ma vie. Que quand on me proposait mes premiers jobs en sortie d'école d'ingénieur, je me disais, mais finalement, je gagnais un peu moins. Après, je trouvais qu'il y avait des perspectives qui étaient quand même un peu limitées. Et je suis reparti dans le moule un peu classique.
T'avais quand même fait des études, accessoirement. Ouais, il fallait peut-être aussi un peu les valoriser.
Il fallait les rentabiliser. Donc donc je suis reparti chez Suez. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a un moment où je trouvais que... J'arrivais plus à trouver du sens dans ce que je faisais. Et je dépendais tellement de changements de direction qu'au bout d'un moment, je me suis lassé.
Perte de sens complètement.
Ouais, je me suis lassé. Vraiment, j'ai commencé à me dire, je vais travailler dans d'autres secteurs. Et dans cette expérience professionnelle, j'ai quand même rencontré des gens super, avec qui j'ai d'ailleurs toujours des contacts. Et dont un qui m'avait évoqué un sujet sur lequel il voulait que je donne mon avis. Qui était le réemploi des équipements informatiques. Donc j'ai regardé son business plan un peu plus en détail, et Et je me suis dit, mais écoute, j'ai envie de partir avec toi sur l'aventure. Donc on a monté une première boîte ensemble.
Ah oui, donc là, et vous étiez tous les deux donc chez Suez à
Alors, on était encore chez Suez à l'époque.
Du côté de l'eau ou dans
quel secteur ? Dans le traitement d'eau. Traitement d'eau pour l'industrie. Donc on est parti. Enfin, moi, je suis parti dans cette aventure en étant toujours salarié.
T'avais quel âge là, ce mois ?
C'était en 2006 à peu près. Dans 2006, j'avais 31 ans.
Ouais. Oui, donc t'avais eu un parcours de 7-8 ans chez Suez.
Oui, exactement. Ouais, un petit peu plus. Ouais, ouais. Mais voilà, donc j'ai monté mon business à cette époque-là, je ne l'aurais pas fait tout seul. Partir d'un grand groupe, je l'aurais pas fait. Enfin, je visais finalement d'autres postes dans d'autres grands groupes, mais où je pouvais peut-être trouver un espace de liberté un peu plus important. Mais monter mon business tout seul, je pense que je ne l'aurais pas fait sans lui.
C'est une question importante, parce qu'on l'a vu, j'ai déjà mené quelques interviews, et la question c'est de savoir à quel moment on décide de quitter entre guillemets le confort, parce que c'est une forme de confort le salariat.
Évidemment, ouais.
Enfin, une fois de plus, on ne peut pas opposer les entrepreneurs et les salariés, mais il y a une forme de confort. Il faut quand même une part de folie, et une part effectivement d'envie. Tu disais que tu l'aurais pas fait, c'est une chose que tu n'aurais pas fait tout seul. Ça prouve que la rencontre a été déterminante dans ton choix d'entreprendre.
Oui, et puis le faire à deux, d'une certaine manière, tu divises le courage nécessaire pour le faire également par deux.
Et tu multiplies aussi la capacité de travail, finalement.
Et oui, tout à fait. Donc on s'est lancés tous les deux. J'étais encore salarié à Suez. L'idée était naturellement de partir. Ça n'a pas été si évident que ça, parce que il me proposait quand même pas mal de choses pour essayer de me garder. Mmh. Mais bon, la décision a été prise. Là, je l'ai évoqué à mon ex-femme à l'époque, enfin, ma femme de l'époque. Mmh. Et là, la réaction était le confort de Suez, c'était pas mal.
C'est un vrai sujet, d'ailleurs, dans la vie d'un entrepreneur.
Je pense que dans un couple, oui, c'est une vraie question qu'on doit partager. Mmh. Là, je n'ai peut-être pas partagé suffisamment tôt.
C'est vrai que c'est un des éléments, mais une fois que l'histoire s'est écrite, on peut l'intégrer. Mais c'est vrai que le couple, enfin la famille, si on élargit, ça a des vrais impacts d'entreprendre.
Ah, c'est sûr. Ouais,
c'est quand même. Donc là, vous êtes parti, tu as pris la décision, vous êtes parti à deux, et puis finalement, tu.
Voilà, il y avait une condition qui était revenir au Havre, puisque mon ex-femme était à Vraise. Mmh. Donc, j'ai accepté, puisque j'avoue que la vie parisienne avait un peu ses limites pour moi à ce moment-là. Mmh. Donc, on s'est retrouvés.
Le Havre, c'est plus pour des raisons effectivement familiales que stratégiques.
Ah, oui,
à la base, c'était pas du tout stratégique.
Non, tout à fait. Ouais.
Tu aurais pu monter ça ailleurs qu'au Havre.
On était plutôt dans un rôle de consultant qu'on a créé notre première société, qui était d'essayer de voir comment réemployer les parcs informatiques de société. On n'avait pas d'entrepôt pour le faire. On se basait vraiment sur une solution d'engineering. Donc, on n'avait pas de localisation. Et de trading, tout à fait. Bah, en l'occurrence, mon associé de l'époque était à Marseille. Donc, tu vois, on pouvait être à peu près n'importe où pour faire cette activité.
Donc vous commencez sur cette activité entre guillemets de trading en disant tiens, il va se passer quelque chose, qu'on est encore loin de tout ce dont on parle aujourd'hui. Hein, on parle de ça il y a maintenant finalement, ça fait combien ? Ça fait 15, ça fait 17 ans.
Oui, ça fait 17 ans, oui.
Donc on était dans les premières heures de tout ce qui était recyclage.
Réemploi, réutilisation, c'était assez précurseur. Ouais.
C'était précurseur. Mmh. Donc là finalement vous partez sur cette idée de trading, là tu reviens au Havre, et comment vous avez... passer la première étape, c'est-à-dire que...
On ne l'a pas passé.
Ah oui. Donc finalement, c'était un starter, et puis après...
C'était un bon starter. Après, je crois qu'il y avait des vraies divergences sur la vision qu'on avait de l'entreprise. Et ça s'est arrêté au bout de 6 mois, en fait.
D'accord.
Donc, on est parti bons amis. Lui est parti sur d'autres directions. Et moi, j'ai continué dans la direction liée à ces équipements électriques et électroniques et à ces parcs informatiques, mais en me focalisant plus sur la partie déchets. Recyclage, parce que j'avais fait le constat aussi auparavant à travers Suez que il y avait peu de traçabilité, beaucoup d'acteurs qui intervenaient comme traders sans vraiment connaître la composition de ces équipements.
Donc c'est vraiment Suez, t'avais repéré ça. C'était intéressant, ça veut dire que finalement c'est pas une forme d'essaimage.
Je l'avais repéré chez Suez de par les clients avec lesquels je pouvais travailler à l'époque. J'ai travaillé naturellement d'un point de vue du traitement de l'eau, mais c'était des sites industriels, mais qui généraient également des déchets. Et quand je voyais ces déchets de l'industrie électrique et électronique, et que je posais un peu des questions autour de moi, on voyait bien que le déchet, c'était vraiment le dernier sujet qui pouvait intéresser les industriels. À partir du moment où
c'était
il était
un mal nécessaire.
À partir du moment où il était évacué correctement, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais par contre, qu'est-ce qui était fait du déchet derrière ? Alors, tout le monde s'en fichait complètement.
Et c'était même pas une prise de conscience écologique, là. C'était vraiment une gestion à faire du déchet qui n'était pas... Il n'y avait pas de valorisation à l'époque.
Ah, il n'y avait aucune valorisation. Ou en tout cas, tout le monde se fichait complètement de ce qui pouvait se passer derrière. Et ce que ça a généré, ça a créé des chaînes extrêmement longues de négociants qui ne savaient pas non plus également... Ce qu'il y avait à l'intérieur du déchet, c'était plutôt une notion économique qui était en place, de se dire, moi je l'achète à tel prix et je le revends à tel prix. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est pas intéressant. Le constat que je faisais, moi, quand j'étais encore Suez, chez les industriels de l'industrie semi-conducteur et l'électrique et électronique, c'est que les déchets étaient effectivement la dernière chose dans laquelle ils pouvaient s'occuper. Que ce qui était important, c'est que ça puisse partir vite, mais derrière, ce qui était fait de ce déchet n'avait pas d'importance. Enfin, en tout cas, ils ne s'y intéressaient pas vraiment.
Donc c'était une source de coût pour eux, plus qu'une source de revenus,
c'était définitivement. C'était une source de coût, exactement, tout à fait. Donc, moi, je me suis intéressé, j'ai suivi un peu ces déchets, essayé de voir, à comprendre qui étaient les intervenants dans cette supply chain. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'était des chaînes extrêmement longues. Il pouvait y avoir jusqu'à 10, 20 négociants de cette matière, jusqu'à le véritable transformateur final.
Et quand tu dis de négociants, c'est des gens qui achetaient et qui revendaient plus cher. Parce que quand on parle de négoce, on parle quand même d'une valeur ajoutée. Sur le déchet, il y avait déjà une...
Mais sans étape de transformation. C'était de la massification. J'achetais à un prix et j'arrivais à trouver un acheteur qui était un peu plus intéressé que le précédent.
Donc c'était une accumulation de marge.
Mais souvent...
Sans valeur.
Sans valeur, sans transformation et sans réelle connaissance de la composition du déchet. Et ce que j'avais pu voir sur les déchets électriques et électroniques à l'époque, c'était donc début 2006-2007, c'était sur des wafers, donc des plaques de silicium qui étaient utilisées dans les semi-conducteurs. Le silicium, pour moi, à cette époque, c'était quand même une matière qui avait une certaine valeur, puisque je voyais derrière le marché du photovoltaïque qui était en plein essor, des usines qui fabriquaient ces plaques de silicium qui n'étaient pas encore sorties de terre, ou en tout cas pas avec suffisamment de capacité par rapport à la demande. Donc je me dis, mais c'est quand même bizarre que ce déchet qui contient du silicium
ne soit pas réutilisé. Et réintégré dans une...
Exactement. Donc là, moi, j'étais allé voir des clients à l'époque en Asie qui fabriquaient des panneaux solaires. J'avais fait l'analyse de ces déchets, j'avais montré qu'il y avait différentes qualités, et ils m'avaient dit, si tu me sépares cette qualité-là, je suis prêt à te l'acheter. Et les ratios qui étaient entre le moment où c'était un coût et une valeur pour l'autre étaient de l'ordre de 1000. Donc je me suis dit, non mais là, il y a vraiment quelque chose à faire. Enfin, c'est pas possible, il faut raccourcir ces chaînes, il faut apporter
et la valeur ajoutée. Et eux n'avaient pas de contact pour les sourcer directement ce déchet Non, ils voulaient de la matière transformée.
Ils cherchaient du vierge, ils cherchaient de la matière primaire. Oui. Donc le secondaire n'était pas encore aussi intégré que ça peut le devenir aujourd'hui, de façon encore plus stratégique encore aujourd'hui, je veux dire. Mais...
Oui, parce que finalement, tu parles souvent de mines, d'éviter d'aller chercher des mines, d'aller chercher cette matière première. Toi, ton idée, c'était de dire, on a des mines autour de nous, allons réextraire dans ces mines que sont les déchets.
Les fameuses mines urbaines. Voilà. Ouais, tout à fait. À l'époque, c'était le constat, et aujourd'hui... Alors, on voit que, de par la concentration des métaux stratégiques qu'il peut y avoir dans les déchets électriques et électroniques, c'est des mines qui sont encore plus intéressantes à exploiter, rien que d'un point de vue financier. D'un point de vue environnemental, c'est évident. Hein, quand on prend un kilo de métal produit par tout ce qui est industrie de l'extraction primaire, c'est 2,3 millions de litres d'eau qui sont utilisés pour un kilo.
Ah oui, donc en plus, il y a tout ce que ça coûte en termes d'ingénierie industrielle.
Alors, tout ce que ça coûte à l'environnement.
Oui.
Parce que pour extraire un kilo, si tu utilises 2,3 millions de litres d'eau, c'est 2,3 millions d'eau qu'il faut derrière purifier, qui ne le sont pas toujours d'ailleurs. C'est 4000 tonnes de gravats qu'il faut sortir de terre, enfin qu'il faut extraire pour choper ce kilo. C'est une quantité d'énergie qui est colossale. Donc quand tu prends le ratio entre un kilo de métal extrait d'une source primaire versus une source secondaire du recyclage, comme on le fait maintenant à travers les process qu'on a développés chez WeCycling, c'est des ratios en termes d'impact en, d'émissions carbone qui sont de l'ordre de 1000.
Donc c'était quand même très visionnaire ton truc, parce que là on est en 2006, 2007, 2008, t'es dans la phase d'ingénierie, donc de connaissance du marché. Là tu t'es tout seul, enfin tu commences à créer ton équipe. Tu as déjà dans ta tête l'analyse que tu en as là ou...
Non, je l'ai construite au fur et à mesure du temps, parce que j'avais pas toutes ces connaissances en fait. J'avais pas tous les éléments pour faire ce constat. Je voyais juste qu'il y avait un flou artistique autour de tout ça, qui était principalement lié au fait que les gens n'avaient pas la capacité à analyser ce déchet.
D'accord.
Donc, moi, ce que j'ai développé à travers Morphosis, c'était trouver des solutions de conseil, des moyens d'analyse pour raccourcir les chaînes entre la personne qui a un déchet et celui qui potentiellement peut en voir une source de matière première, enfin de matière du coup première secondaire.
Donc il fallait que ton idée c'était de sourcer, d'être capable de convaincre le marché, parce que le marché n'était pas totalement là, d'identifier ceux qui pouvaient l'acheter pour le transformer.
C'est ça.
La recherche, et toi d'aller chercher des gisements de matière.
Ouais, tout à fait.
Donc ça c'est les trois premières années. Donc finalement, tu étais en train de faire un peu une analyse de marché, retrouver les différents intervenants dans ces chaînes de valeur, de réduire ce que tu disais tout à l'heure, le nombre d'intermédiaires.
Exactement.
Et donc là, tu étais dans du conseil. Il a bien fallu que tu massifies. Donc il a fallu que tu passes en phase industrielle à un moment donné, t'as une phase de conseil au départ et qui s'est transformée.
Il y a une phase de conseil qui s'est rapidement transformée en une phase de massification et de stockage et même de pré-transformation, puisque quand on a démarré Morphosis, donc suite à cette aventure un peu courte avec mon premier associé, on a démarré en 2008 Morphosis et mai 2008, début donc super, un marché extraordinaire, 15 mai 2008 ou je ne sais pas exactement la date exacte. Tous les marchés s'effondrent, un nombre de boîtes incalculable qui est mise au tapis, dont une qui m'appelle en me disant, celle qui gérait ma logistique, puisque je m'occupais également de la logistique des flux entre celui qui produisait le déchet et celui qui pouvait le transformer, qui me dit, monsieur, il va falloir récupérer vos big bags, donc les contenants qui contenaient ces fameux déchets, parce que là, je ferme.
Oui, parce que là, tu faisais appel à des prestataires extérieurs, donc t'étais externalisé. Finalement, t'étais dans ta logique de trading, t'achetais tu massifiais.
Il faut imaginer que moi, quand j'ai démarré Morphosis, j'avais 5000 euros de capital. Donc, autant te dire que tu t'imaginais pas avoir des entrepôts, des usines et des salariés. Enfin, on était vraiment dans une logique, quand je dis nous, c'était moi avec Gaël, mon stagiaire à l'époque, qui est maintenant d'ailleurs mon directeur général adjoint sur la société Morphosis.
Ça, on en parlera après, mais c'est intéressant, dans le côté RH.
Ouais, mais on était plus vraiment dans cette notion de conseil.
Donc 2008, tout se casse la gueule.
On se dit, il va falloir qu'on trouve un espace de stockage. Et Gaël comme moi, on avait pas le KSS, le fameux permis pour conduire des chariots élévateurs. Et on se dit, on va le faire nous-mêmes.
Ouais, donc là, il y a une prise en main, en tout cas une prise de conscience, de se dire, il faut qu'on internalise notre cœur de business, il est là.
On n'avait pas le choix.
Donc, finalement, vous n'avez pas eu le choix.
On n'a pas eu le choix. Donc, on a pris ces 100 mètres carrés dans l'entrepôt, on déchargeait les camions, on les rechargeait. Et c'est en faisant ça, en voyant la matière réellement, parce qu'on était plus dans une notion d'engineering, donc vraiment plutôt quelque chose d'assez abstrait finalement, qu'en y intégrant des étapes de transformation, de séparation, de tri, de qualification, eh bien on pouvait apporter une valeur ajoutée complémentaire.
Et donc augmenter, finalement toi tu avais identifié que ta valeur ajoutée c'était cette fameuse suppression des intermédiaires, plus tu faisais pour le compte, notamment le stockage finalement, tu étais content de le faire, mais... C'était quand même un des éléments qui t'a permis d'accélérer cette industrialisation dans ton process d'ingénierie.
C'était surtout le point de départ, mais c'est le point de prise de conscience.
Ouais. Donc ça, c'est 2008-2009, donc là, il s'est passé de 3 ans, donc
La première phase de doute, c'était la première embauche, en fait. Ouais. La première embauche, c'était le premier chariste qu'on a embauché. Philippe, qui est venu me voir en me disant, mais... Est-ce que tu pourrais... Je peux travailler pour toi l'espace de 2 semaines. Et j'étais assez un peu paniqué par l'idée d'avoir la responsabilité de porter un salaire.
Oui.
Euh, après avoir été paniqué de pouvoir conduire un chariot élévateur.
Et donc, c'est une succession de paniques. Finalement, c'est des peurs qu'on n'arrête pas de pousser pour avancer.
C'est une succession de peurs que tu casses et qui font que tu avances. Mais...
Donc là, il y a Philippe Bourgeois, avec Gaël, finalement, le stagiaire devient l'associé. Et puis,
salarié, tout à fait. Ouais.
Et là, donc, vous prenez conscience qu'il faut des mètres carrés, vous partez, là, vous prenez les entrepôts, donc la société prend une autre ampleur à ce moment-là.
Exactement.
On était en 2009-2010.
Oh non. Un petit peu plus tard. On était peut-être en 2012, on a pris nos premiers bâtiments à Boulevard Jules Durand.
Boulevard Jules Durand, oui.
Donc là, effectivement, on s'était dit, tiens, 2000 mètres carrés, est-ce qu'on va réussir à vraiment exploiter tous ces 2000 mètres carrés ? On avait trouvé une société à l'époque en Allemagne qui pourrait peut-être s'associer et qui donc comblait une partie de la charge que ça pouvait représenter. On signe le contrat de location. Un mois plus tard, le client allemand en question nous plante. Bon, il se trouve que derrière...
Pour les Havrais, ça se situe au bout du boulevard Jules Durand. C'était des anciens locaux de... comment ça s'appelait,
c'était les ACH, c'était
vaste. Donc là, vous prenez quand même une autre dimension.
On prend une autre dimension. Il y avait 2000 mètres carrés de bâtiments, à peu près 8000 mètres carrés en total de terrain. Mais finalement, on sature l'endroit en vitesse grand V, parce que l'offre qu'on proposait sur le marché restait très très innovante et économiquement très intéressante pour les industriels. Et notamment les acteurs du monde du déchet électrique et électronique qui nous confiaient tout ce qu'ils avaient pu désosser pour qu'on puisse, nous derrière, le négocier au meilleur prix avec une filière qui était tracée, visible, éclairée un peu avant-gardiste par rapport aux normes qui allaient se mettre en place.
Il y a eu l'avènement du réglementaire autour de tout ça, parce que là finalement on commence à avancer vers notre ère, j'allais dire, 2023, dans le recyclage, mais c'est vrai qu'il y avait toute un processus de réglementation sur le déchet qui se mettait en place.
Il y avait les écotaxes qui ont été mises en place. Donc, effectivement, une filière de collecte et de démantèlement sur tout ce qu'on appelle les déchets électriques et électroniques ménagers. Là, on voit aujourd'hui dans les déchetteries les espaces qui sont dédiés à cela. Donc oui, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour de ces déchets. Et nous, on avait trouvé notre bonne place, qui était, après le démantèlement de tous ces appareils, nous se positionner comme intermédiaire pour orienter ces flux vers des sites qui avaient la capacité à transformer et à extraire les matières premières.
Alors pour les gens qui nous écoutent, parce que je connaissais un peu le sujet, mais c'est intéressant quand on parle de tout ça, effectivement on ne parle pas de lave-linge, on parle véritablement de D3E, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de produits qui ont de la valeur matière intrinsèquement, à savoir les ordinateurs, il y a eu un gros marché sur les téléphones portables.
Exactement.
Vous n'avez jamais été... Vous n'avez jamais été tenté d'ailleurs de...
Non, on était vraiment focalisé sur tout ce qui était équipement informatique et télécom, tout simplement parce que ces équipements contenaient des cartes électroniques et que c'était un vrai sujet. Qu'il y avait énormément de métaux dans ces cartes électroniques. Quand je dis énormément, on parle de quelques grammes à la tonne, mais comparé à un lave-linge, il y en a quand même un petit peu plus donc, de ces métaux que dans ces appareils. Même si aujourd'hui, un lave-linge devient très intelligent, comme le frigidaire. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais...
Alors là, du coup, vous massifiez. Donc là, on va parler un peu de structuration. C'est-à-dire que l'entrepreneur, tu as passé le cap. Tes stress successifs, tu les passes. Tu prends plus grand, donc il faut embaucher. Donc là, tu commences à faire grossir l'équipe.
Ouais.
Tu t'aperçois très vite qu'il faut quand même aussi innover.
Ouais,
parce que ça avait été un vrai sujet. Parce que aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a abordé sur d'autres interviews, mais tous les secteurs ne sont pas propices à l'innovation. Il faut même s'en méfier, parce que l'innovation, ça veut tout dire et rien dire. Donc il a fallu, à un moment donné, que vous innoviez. Donc il a fallu que vous...
On a vraiment regardé toutes ces étapes de préparation.
Parce que mais c'est pour sortir du trading, pour passer justement...
Exactement. On voulait en permanence ajouter de la valeur à la transformation préalable qu'on pouvait faire aux grosses unités d'affinage qu'on pouvait voir un peu partout. Enfin, un peu partout, il y en a peu. Des grosses unités d'affinage, il y en a 10 dans le monde. Donc, ça reste quelques acteurs.
Ce que tu appelles les unités d'affinage, c'est des gens qui font fondre et qui donnent du lingot pour simplifier
de la matière première. Les affineurs, c'est un marché très, très spécifique qui est issu du marché minier. Ce sont tous les transformateurs des agrégats miniers qui sont ressortis et qui font que ces agrégats miniers deviennent une matière pure,
exploitable,
vendable à des industriels, principalement des industriels d'ailleurs.
Qu'on retrouve donc quand tu parles d'industriels, mais c'est tous les secteurs d'activité, c'est l'aérospatial, c'est
les métaux stratégiques, tu vas les retrouver dans tout. C'est-à-dire que dans la production de médicaments, tu as besoin de métaux stratégiques. Dans toutes les évolutions que notre monde subit, tu les trouves encore de plus en plus, puisqu'on va avoir une transition numérique qui va consommer de plus en plus de cartes électroniques. Tu vas avoir une évolution des véhicules, on passe du thermique au véhicule électrique, forcément, tu as une consommation aussi de ces métaux qui est encore plus forte. Les énergies renouvelables, un panneau photovoltaïque va utiliser des métaux comme de l'argent, du carbone, enfin, il va y avoir énormément d'éléments, une demande encore plus croissante de ces métaux.
Ça veut dire que tu as une vision 360, parce que toi, à chaque fois que tu vois un nouveau marché, en tout cas une nouvelle technologie arriver, tu te poses la question de te dire, bon, il y a l'éco-conception dont on a beaucoup parlé, toi tu te poses la question de te dire comment il est constitué pour savoir comment potentiellement je pourrais moi le retraiter pour le réintroduire.
Ben, ça c'était un constat que j'ai pu faire à peu près vers 2018-2019, c'est-à-dire jusqu'en 2017-2018, on était encore sur une vision très linéaire des choses. On préparait la matière, ça passait chez l'affineur, et puis derrière ce qui se passait chez l'affineur, c'était une sorte de black box, même si on peut tout à fait imaginer que c'était fait, que c'est fait proprement.
C'était des cours matières.
C'était des coûts de traitement, c'était des choses à optimiser pour que derrière, eux fassent le job correctement. Mais on n'était que des préparateurs. 2019, un petit peu en amont de 2019, je me rends compte que le marché change, que les gens ont une notion justement de cet impact dont je parlais tout à l'heure entre la notion de métal primaire et de métal secondaire, qu'il y a des prémices qu'on peut voir sur la raréfaction de la matière première. On n'est plus dans un monde, on n'a jamais été dans un monde fini, mais on commence à le ressentir.
Alors, on parle des fameuses terres rares, d'ailleurs.
Les terres rares, c'est encore un autre sujet. Mais toutes les autres, quand on parlait de l'argent, par exemple, des platinoïdes, les ressources. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà eu ce discours, et c'est pour ça qu'il y a eu, encore entre 2019 et 2023, énormément d'étapes. On se disait, on va arriver au fond. C'est un peu comme le pétrole. On se disait, mais le pétrole, il ne va plus y en avoir en 2020. Bon, en 2023, il en existe toujours. Mais on sentait quand même ces éléments arriver. Donc là, j'ai changé un peu de mindset et je me suis dit, il y a une autre activité à monter, c'est de s'occuper de la circularité de ces métaux stratégiques pour les industriels.
Écoute, tu sais quoi, on va faire une petite pause médicale, on va faire une pause là de quelques minutes et puis on reprend sur cette idée juste après cette pause.
Très bon.
À tout à l'heure, on retrouve Serge Kimble juste après la pause. Nous sommes de retour avec Serge Kimble. Donc Serge, on disait juste avant cette pause musicale qu'il y avait un changement de paradigme dans l'évolution de ton activité. Mmh. Et là, donc, on passe, pour schématiser un peu du trading, de la massification, de cette prise de conscience qu'il allait falloir entrer dans le monde réglementaire, à arriver à faire cette transformation. Et là, on arrive, donc on est en 2017-2018, à cette prise de conscience.
2018, effectivement, moi je prends conscience qu'on n'est pas dans un système, on est dans un système linéaire et qu'une circularité est vraiment plus importante à mettre en place que juste ce traitement et ce respect d'une réglementation. Donc je commence à réfléchir à créer une autre société qui va justement s'occuper de la circularité des métaux stratégiques. Donc là, je crée la société WeCycling, qu'on va implanter d'ailleurs sur un nouveau site, sur le site de Tourville-les-Ifs, à côté de Fécamp. On a eu une super opportunité.
C'est l'ancien site de la Bénédictine, c'est ça?
Exactement. L'ancien site d'embouteillage de la Bénédictine. Ils avaient construit ce bâtiment en 70 et en 2011, ils étaient partis de ce bâtiment. Donc, pendant de 2011 à 2018-2019, là, au moment où j'ai repris ce bâtiment, le bâtiment était une friche industrielle. Donc, on a pu reprendre ce bâtiment, qui était une vraie, d'ailleurs, un peu interrogation à l'époque, parce que c'était quand même à 30 minutes du Havre, est-ce que nos salariés vont accepter d'aller sur ce site? Sur ma nouvelle activité, est-ce que je vais réussir à recruter dans un espace qui est quand même entouré de moutons
Tu parlais de stress des 2000 m² du départ, là tu passes quand même sur une autre échelle, parce que le site il fait
15 000 m² sur 15 hectares. Effectivement, là, je me disais que j'avais de la place pour installer mes activités existantes et mes nouvelles activités pour un petit paquet d'années. Bon, il se trouvait que je me suis aussi planté là-dessus, mais... Mais avec 15 hectares, on a naturellement de la ressource foncière qui fait qu'on... Alors, c'est pas vraiment un problème aujourd'hui, mais...
Donc t'es passé à WeCycling, donc ouais. Là, il faut que les équipes suivent, il faut...
Bah, WeCycling, on a dû créer de scratch, encore une fois, de nouvelles équipes autour de cette thématique des métaux stratégiques, qui sont différents. On peut en trouver naturellement dans les cartes électroniques, mais on en retrouve, comme je disais tout à l'heure, dans bon nombre de secteurs industriels et donc dans de déchets industriels. Et là, on a surtout eu comme point de départ de se dire comment je vais pouvoir capter cette matière, l'affiner, la transformer exactement sous la forme dont laquelle l'industriel a besoin pour qu'on puisse créer des boucles d'économie circulaire sur un site.
C'est du tailor-made. Il fallait absolument que tu répondes à une charge pour lui fournir un produit qui corresponde à sa
capacité. Tout à fait. On était sur de l'horlogerie des métaux stratégiques. Donc,
pas les mêmes équipes.
Donc pas les mêmes équipes.
Pas le même métier.
Pas le même métier, parce que là, on était sur des technologies qui étaient encore complètement différentes. Des investissements qui étaient beaucoup plus lourds à porter. Bon, j'avais une certaine crédibilité auprès des banques, donc ça m'a aidé, parce que j'avais ce track record de Morphosis qui m'a permis d'apporter quand même une certaine confiance auprès des banques. Mais c'était pas évident non plus, parce que ces banques, comme vous voyez, créent une nouvelle entité, pareil, avec un capital relativement faible. Donc c'était une vraie prise de risque.
D'ailleurs,
pour les banquiers.
C'est le sujet, là, on parlait de la prise de risque et du financement de ce risque. Mmh. Là, on est en pleine innovation. Tu as passé quand même ton temps à faire de l'ingénierie d'innovation. Ensuite, il a fallu comprendre et innover dans l'économie à laquelle tu t'adressais. Mmh. Là, il faut que tu passes dans une innovation qui est une innovation de rupture, finalement.
Oui, tout à fait.
Donc, il faut convaincre. Une fois que tu as les locaux, c'est une chose. Donc, il a fallu que tu convainques aussi financièrement.
Ah là, oui. Il fallait convaincre les banques d'aller sur un process qui, à l'époque, était éprouvé à une étape de laboratoire.
Oui, donc là on est sur la deep tech, finalement.
Ah oui, donc là, il fallait effectivement avoir les couilles, on va le dire comme ça, d'y aller. Toutes les banques n'y sont pas allées.
Et là, t'as eu peur, là ? T'as eu peur ou
finalement... Ah oui, j'ai eu peur, parce que je pense qu'effectivement...
Là, tu penses que tu peux tout perdre si jamais ça ne fonctionne pas, ce virage ? Est-ce que
j'avais des certitudes, même si ça avait été au niveau du laboratoire, qu'il y avait encore beaucoup de réglages probablement à faire, mais j'étais persuadé que c'était la bonne direction technologique.
Donc il y a une intime conviction qui te porte et qui te dit j'ai réussi jusque-là, l'étape d'après c'est forcément celle-là.
Enfin, j'étais pas porté par une conviction que j'ai réussi une première étape, la deuxième va bien se passer. J'étais porté sur cette deuxième étape avec des convictions technologiques en disant je pense que j'ai le bon process, je pense que ce process va fitter avec un marché qui est naissant.
Oui, tu as une vraie connaissance du marché.
Alors par contre là effectivement j'ai une vraie connaissance des marchés et pour le coup je l'avais bien travaillé cette notion de à la fois de marché de déchets potentiel mais aussi de consommateur, de réussir à reboucler. Alors oui effectivement beaucoup sont les mêmes, mais ce ne sont pas du tout les mêmes interlocuteurs. Et c'est aussi beaucoup de paradigmes à casser. Quand on propose à un industriel de réintégrer sa matière à travers une transformation de son déchet, le premier réflexe des productions, c'est de dire « Attendez, vous n'allez pas mettre de la merde en entrée. Moi, je veux de la matière primaire, pure, du secondaire, ça va être moins bien, ça va être moins qualitatif. » Mon process va partir en sucette. Non.
Donc là, ils veulent de l'excellence. De l'excellence ou rien.
Et puis surtout, on part du principe que le primaire, c'est une qualité, le secondaire, c'est une autre qualité. Alors que ça, c'est tout à fait faux. Donc on a dû faire beaucoup d'apprentissage, de tests.
C'est de l'évangélisation.
L'évangélisation et de la preuve par A plus B qu'une matière primaire purifiée ou une matière secondaire purifiée, c'est exactement la même chose.
Oui, ça donne
exactement
les mêmes,
la même chose. Ça a la même propriété, ça a les mêmes compositions, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Là, je parle des métaux critiques affinés. Donc, quand on parle de l'aluminium, c'est un peu différent. On parle d'une matière qui va servir dans le déchet, notamment à créer des aluminiums d'une qualité inférieure, parce qu'on ne va pas affiner l'aluminium. C'est une matière qui n'est pas suffisamment chère pour l'être. Pour les métaux critiques, c'est un autre sujet. C'est des matières qui peuvent avoir des valeurs importantes.
Pour les gens qui nous écoutent, il faut bien comprendre qu'il y a le marché des métaux assez basiques.
Oui.
Ce qui ne nécessite pas une consommation. Communs, enfin. Et là, on parle véritablement de l'horlogerie, c'est ce que tu employes comme terme, cette horlogerie et cette finesse et ce devoir d'excellence dans la matière. C'est pas du tout la même chose. Donc on est confronté à d'autres paradigmes de marché.
C'est d'autres paradigmes. Donc bon, ça laisse la place à l'innovation, ça laisse la place à des étapes technologiques de transformation qui sont coûteuses, mais qui font qu'au final, la matière produite reste au même prix que la matière issue du milieu primaire.
Donc, tu arrives à convaincre des banquiers de te suivre.
Je convainc les banques.
La BPI, j'imagine.
Je travaille avec la BPI, je travaille avec des banques dites classiques.
T'es identifié nationalement aussi, parce que j'ai suivi quand même ton parcours. Il y a quand même des. Tu es quand même dans une évolution de marché qui est quand même très stratégique aujourd'hui. On voit d'ailleurs ce qui est en train de se produire. Est-ce que tu as été suivi, aidé?
Je n'étais pas spécialement suivi tout démarrage. Parce que ce principe de circularité et de métaux que j'appelle aujourd'hui stratégique et métaux critiques, cette dénomination, finalement, elle n'existait pas en 2019. Elle était naissante. D'accord. Là où il y a eu un vrai changement, c'est finalement il y a 2 ans, quand le président Macron a vraiment identifié ces métaux critiques et ce besoin d'accompagner transversalement en fait, cette fourniture de métaux critiques sur tous les secteurs stratégiques que l'État voulait mettre en place.
Plus ce qui s'est passé là, il y a eu l'effet Covid, mais la réindustrialisation, ce besoin national de réindustrialiser.
Tout est associé, c'est-à-dire que le plan de réindustrialisation de la France, il est un peu issu de la suite du Covid. Ouais. Les besoins primaires de l'État n'étaient pas, des Français et des Européens n'étaient pas couverts parce qu'on importait la totalité de nos besoins quasiment d'Asie en grande partie, mais et d'autres pays. On a pris conscience de ce besoin de résilience, donc de réindustrialisation.
Une autarcie de matière.
Oui, mais pas. Enfin, la matière, si tu veux, a été vue de façon très transverse. Là, on s'est dit, non, faut qu'on renforce notre capacité à produire des médicaments, faut qu'on renforce notre capacité à produire de l'énergie, faut qu'on renforce plein de secteurs stratégiques.
Pour l'indépendance, quoi.
Il faut créer une indépendance européenne. C'est un vrai plan qui a été mis en place au niveau de l'Europe, qui a été transcrit par le plan d'action France 2030 par Emmanuel Macron. Et ça, pour nous, c'était une véritable mise en lumière de ce qu'on avait déjà mis un peu en place quelques années auparavant. Et ça nous a permis, avec la preuve de concept qu'on a pu mettre en place, avec les boucles qu'on a pu générer pour des industriels de renom, puisque au démarrage, on a travaillé principalement avec le secteur de l'environnement, avec des sociétés qui géraient du déchet. Après, ce sont des groupes comme ST Microelectronics, comme Schneider, qui sont adressés à nous, voire des marques très très prestigieuses.
Qui sont en plus des marques internationales.
Enfin, qui sont des marques internationales, qui se sont adressées à nous, parce que on était une solution un peu innovante, clairement.
Et qu'eux n'avaient pas intégré, en tout cas. Ou ils n'avaient pas perçu, mais ils n'avaient pas mis l'axe sur cette innovation.
Ça restait quelque chose de théorique. On va travailler sur la circularité. Mais imaginez qu'un déchet devienne la véritable matière première qu'ils utilisent dans l'usine, mais pour eux, c'était extrêmement abstrait.
Ah oui, donc t'es quand même rentré, finalement, tu t'es intégré dans un besoin, et tu as créé l'intégralité du service. T'as créé un vrai service complet, finalement.
J'ai créé l'intégralité, tout à fait. Donc, en tout cas, qu'ils ne voyaient pas sur le marché. Pour eux, c'était abstrait.
Et aujourd'hui, finalement, cette innovation te permet d'avoir suffisamment d'avance pour pas que eux finalement puissent se dire on a repéré, c'est extraordinaire ce que ce mec a fait en Normandie, on voudrait refaire la même chose chez nous. Il y a un chemin qui est énorme
Je pense que c'est surtout un métier en fait de gérer cette circularité. C'est pas le leur. Le leur, c'est de reste de produire un produit fini qui correspond aux besoins de population, aux besoins de marché. Donc la gestion de cette matière, pour eux.
Oui, ça représente un pourcentage trop infime pour que finalement, stratégiquement, ils l'intègrent dans leur ligne de valeur. C'est un peu ce que tu veux dire?
Oui.
Ça ne vaut pas le coup de refaire le chemin pour.
Ils doivent créer des partenariats, c'est ce qu'ils ont fait avec nous. Mais l'intégrer, ce n'est pas forcément le sujet. Pas aujourd'hui, peut-être demain, mais en tout cas.
Donc cette innovation, elle t'a permis effectivement de passer ce cap.
Exactement. et notamment d'être soutenu, bah, pour le coup, par ces plans d'investissement de France 2030 pour augmenter les capacités de production qu'on peut avoir sur le site de Tourville-les-Yves.
D'accord. Alors finalement, si on fait un peu de terminologie, on est parti de Morphosis Materials, qui était la matière véritablement, et cette transformation de la matière, vers Recycling, qui est de re-rentrer cette logique de circularité.
On a un outil, enfin, Morphosis, c'est un bel outil de collecte.
Qui existe encore.
Qui existe encore, oui, tout à fait. Oui, il y a toujours des...
En France ou...
Principalement en France, un peu en Afrique également, un peu dans d'autres pays européens. Ça, cette activité sur les déchets électriques et électroniques existe toujours. Et il y a cette activité sur ces métaux stratégiques qui est un peu, qui vient se sourcer en partie chez Morphosis, mais qui vient aussi se sourcer sur des marchés, pour le coup, encore plus internationaux, sur les rebuts de production industrielle pour créer ces boucles. T'as bien complété ces boucles, en fait.
Alors écoute, on a fait un bon parcours sur... Enfin, en tout cas, on a commencé à une idée assez claire de tout ce que c'est. D'ailleurs, c'est exceptionnel comme parcours, parce que il fallait avoir quand même une sacrée vision de ce qu'allait devenir l'économie circulaire et après avoir foi dans les différentes étapes. C'est peut-être ça d'ailleurs le parcours d'un entrepreneur, c'est de toujours reculer l'étape d'après.
Oui.
Alors quelle est l'étape d'après?
Bah, l'étape d'après, pour moi, c'est...
Là, on ne parle pas d'ambition, on va parler de vision, parce que bon, l'ambition...
Moi, l'étape d'après, c'est toujours lié à des projets, c'est-à-dire lié à des... Et c'est tout, très souvent, je suis très très drivé par la technique. Ça a toujours été le cas. Donc là, on veut développer encore de nouveaux process qui vont s'adresser sur des métaux sur lesquels il y a de nouvelles problématiques. On parle du gallium, on parle du germanium, qui sont des métaux qui sont utilisés pour créer la fibre optique, par exemple, ou des téléphones, qui sont aujourd'hui limités en termes d'exportation par la Chine, alors que c'est le pays qui en produit, qui est à peu près 90% sur la planète.
Et t'as une grosse cellule R&D chez toi?
Elle grossit au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, oui, c'est quasiment 10 personnes. Ouais.
Et en tout, c'est, pour parler un peu de chiffres, c'est combien de personnes?
C'est quasiment 10% de l'effectif global, si je parle de toute société comprise.
Vous êtes 100 aujourd'hui?
Oui, un peu plus, oui. Toute société comprise, c'est à peu près 130 personnes. Ouais, ouais.
Et tout le monde centralisé sur le...
Sur Tourville, oui. Non, j'ai des équipes aussi déportées à l'étranger, oui.
D'accord. Donc tu as aussi une vision à l'international, mais oui. C'est difficile à exporter. Tu vois, à moins que tu remontes une usine ailleurs, mais...
C'est clairement pas une étape que je vois dans les 5 années à venir, parce que je pense qu'on est déjà très occupé par l'augmentation de capacité du site de Tourville. Qu'il faut aussi... Scaler un process, ça nécessite énormément. C'est pas que des machines, c'est pas que des investissements. C'est beaucoup d'équipes et d'humains qu'il faut former, qu'il faut synchroniser, sur lequel il faut garder une certaine cohésion et ça, le créer sur plusieurs pays, le démultiplier. On peut mettre effectivement tout l'argent qu'on veut, c'est difficile à faire si on veut garder l'âme de départ.
Ah oui, donc il y a quand même cet état d'esprit d'entrepreneur, parce que effectivement, t'es chez toi et tu développes à ton rythme. Parce que je pense que t'as certainement eu d'avoir des propositions.
Ah, mais on m'a proposé plein de fois d'investir dans la société. Moi, je me rappelle du point de départ. J'ai créé cette société parce que je voulais pouvoir prendre mes décisions en toute liberté. C'est ce qui a fait que je suis parti des grands groupes. Et c'est toujours ce que je veux avoir aujourd'hui.
C'est toujours c'est ce qui...
C'est mon leitmotiv. Et j'ai eu une première expérience d'associé, qui ne s'est pas très bien passée, même si on s'est plutôt bien séparés. Mais je la garde un peu en mémoire de tout de même. Je suis assez méfiant sur les associations qu'on peut faire, notamment quand c'est des financiers purs et durs qui arrivent.
Oui, sachant que là c'est finalement, on parlait en off, en émission d'ambition, c'est savoir comment tu veux, ton ambition à toi, c'est cette indépendance.
Ah oui.
Et voilà, donc on pourrait peut-être la caractériser comme ça, parce que si c'était financier, tu aurais eu certainement d'autres axes.
Ah, j'aurais sûrement fait d'autres choix, oui, c'est sûr. Non, là, je veux rester indépendant dans les décisions que je prends, même si je suis naturellement à l'écoute de toutes mes équipes et on a créé vraiment un bon noyau qui sur lequel ils me suivent pas forcément sur toutes mes idées et ils les remettent en question, et ça c'est intéressant. Mais au final, c'est quand même moi qui tiens la barre et qui prends la direction. Et ça, je veux le garder. Donc peut-être que ça crée une croissance qui est moins forte. Moi, je pense aussi qu'elle est suffisamment forte au vu des problématiques d'adhésion de monter en compétences d'équipe autour de process qui sont relativement nouveaux.
Oui, puis on sait aussi la complexité de gérer une croissance à ce rythme-là, avec la complexité d'innovation, d'identification des marchés. On voit aussi la complexité de faire de l'hypercroissance liée au financier. On perd un peu justement ce côté un peu innovant. En tout cas, à l'écoute du marché, des opportunités peut-être, on est obligé de produire. Là, finalement, tu as une forme de liberté.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, je te dis, je pense que recruter, faire adhérer les gens à une vision réussir à les monter en compétences, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, c'est un rythme à respecter.
Ok. Bah, écoute, en tout cas, c'est super. On pourrait parler encore c'est tellement intéressant, effectivement, ce sujet-là. C'est quand même une croissance et tu fais partie de ces créateurs. Là, tu n'es pas parti de rien. Enfin, tu es parti de rien. Tu n'as pas fait de reprise. Tu n'as pas fait de reprise d'entreprise.
Non.
Donc là, c'est vraiment ce qui est quand même assez compliqué. En tout cas, je suis ravi d'avoir échangé là-dessus. Maintenant, on va parler, on va basculer un peu sur le côté Havre, parce que c'est Radio Girafe, c'est aussi le Havre.
Oui.
Donc, tu es venu t'installer là, on a compris au départ un peu par hasard. Le hasard de la vie t'a amené ici. Je voudrais avoir un peu ton... Alors, on ne va pas passer des heures dessus, parce qu'on ne va pas ouvrir des portes ouvertes sur le Havre. Je voudrais avoir ton ressenti sur cette ville-là. Toi, tu es là depuis 15 ans. Qu'est-ce que le Havre t'évoque? Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'y sens bien? Comment tu vois le Havre dans les années à venir? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, est le petit supplément d'âme sur cette ville? S'il y en a un, d'ailleurs, tu peux très bien ne pas le temps en trouver.
Écoute, j'ai eu la chance, moi, d'arriver au Havre avec quand même quelques amis que je connaissais sur place. Donc ça m'a quand même rendu, j'ai envie de dire, les premières années beaucoup plus simples. Je pense que c'est pas forcément le cas pour un nouvel entrant qui arrive au Havre tout seul sans connaître quelqu'un.
Ouais, c'est quand même pas évident.
Ouais, je pense que c'est pas la même chose. Donc, moi, je me suis retrouvé avec un réseau d'amis qui était plutôt vachement sympa, et qui je m'amuse d'ailleurs toujours autant. Notamment la Transat Jacques Vabre cette semaine.
Ah, c'est vrai que c'est la semaine de la Transat Jacques Vabre. Vous écouterez le podcast un peu plus tard, mais on est en pleine semaine de la Transat Jacques Vabre.
Donc oui, j'ai une intégration qui a été hyper, hyper simplifiée. Après, oui, c'est une ville qui est hyper agréable, ou dans laquelle, forcément, quand j'ai vécu à peu près une trentaine d'années à Paris ou dans d'autres grosses villes, tout paraît plus simple. Tu te déplaces facilement. Alors, tu as peut-être un choix qui est un peu plus limité. Mais encore.
C'était d'ailleurs dans l'interview qu'on a faite avec Hervé Drieux. On parlait justement de ce choix des restaurants. Mais peut-être qu'on va arriver à faire bouger les lignes. Lui, il veut des boîtes de nuit, par exemple. Il veut des boîtes de nuit en centre-ville. Mais c'est vrai qu'il nous manque un peu de
l'offre. Je deviens moins le public concerné par l'offre. Mais
ouais, c'est vrai qu'on
il y a 15 ans, j'aurais été le premier client. Mais écoute, j'ai envie de te dire, l'offre qu'on a actuellement est déjà hyper cool. Effectivement, se dire qu'on aura 100 restaurants au Havre, au final, on ira toujours dans les 5 mêmes. Donc, non, c'est sympa. Moi, je trouve que la ville est super évoluée, elle est hyper agréable. Moi, à chaque fois que je fais venir des copains parisiens ou d'ailleurs sur la ville, ils sont toujours hyper surpris par... le côté agréable de la ville. Et la mer, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'ai des enfants qui font de la voile. Moi, je m'y suis mis également. C'est topissime.
D'ailleurs, on souhaite bon vent au bateau que tu sponsorises. Avec
oui, oui, oui. On aide Timothée Paulet et Pierrick Letouzé à accomplir leur rêve à travers cette transat. Ouais.
Bah, à l'heure où vous écouterez ce podcast, on aura le résultat, donc on en reparlera. Et une dernière chose, est-ce que tu as un bâtiment, enfin, un truc emblématique, on parle souvent de totem, j'essaie de savoir un peu quel est... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'évoque le Havre en termes...
Saint-Joseph, moi je trouve que c'est assez impressionnant. Ouais.
Ouais. C'est vrai que ça revient souvent, mais c'est vrai que c'est quand même un...
C'est un vrai totem.
Alors, on va terminer. Je te remercie en tout cas d'avoir consacré du temps à ce podcast-là. On a passé quelques minutes dans la vie d'entrepreneur. Alors maintenant, je vais terminer avec la question que je pose à chaque fois. C'est quelle girafe tu es? Parce que, attends, les choses soient claires. On est en train de créer une communauté de girafes. Maintenant, on voudrait savoir dans notre communauté...
Je ne fais que 1m88, mais...
Écoute, t'es peut-être une grande girafe par rapport aux autres, mais t'es peut-être une petite girafe par rapport aux vraies girafes.
Une girafe. Une girafe, pour moi, ça me fait penser effectivement forcément à cette hauteur. Oui, je peux être de temps en temps tête en l'air, mais je pense que c'est ça aussi qui m'aide à un peu être innovant. Ça reste un animal rapide.
Et
j'aime bien ce côté rythme donc de l'animal.
Bon, bah écoute.
Voilà,
en tout cas, un grand merci et puis bienvenue dans la communauté de la girafe. Et puis,
merci à toi.
Donc, vous pourrez retrouver ce podcast sur Radio Girafe. Donc, n'hésitez pas à le transférer, à le partager. Et un grand merci à toi, Serge, pour ces quelques minutes.
Merci à toi.
Salut.